tournée.
Ouais, il y avait un peu techno un peu progressive aussi. toujours très bien mixé, assez proprement, bien ficelé, très dansant. Bravo. Bon,
super, merci.
On te retrouve à un moment donné sur les platines à Orléans Non, t'as pas de date tout de suite là, Ophélie, en fait.
Pas de
date, ok, d'accord.
Pas de date tout de suite.
Et puis même généralement pour le Saint-Disque, je crois qu'il y a pas grand-chose cette semaine.
Dans la semaine Saint-Disque, non, je crois pas, non.
La ça ruche peut-être.
La ruche le 18. Ouais. Non, si samedi prochain.
Le 18,
aussi.
Je crois.
Ouais, c'est le 18.
Novembre,
hein. Ouais.
Ouais.
Ça sera avec moi, ouais. Ça et Fred. Du coup, mais voilà.
Non, moi je vais partir un peu là une petite semaine. Du coup, c'était mon mix avant mes 40 ballets.
Oh, très bien. Une sorte de mix pré-anniversaire.
Ouais, c'est ça.
Donc, eh ben bravo.
Eh ben merci à vous.
Merci Sylvain.
Bonne émission.
Ouais, merci.
On se voit bientôt.
À plus. Je suis en compagnie de Nancy. Ici au juste, poser des questions à des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues,
des interviews longues de créateurs
sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire. Bonsoir Karl, ce soir émission de filles avec des interviews. La deuxième partie de l'émission sera consacrée au livre La Version de Deborah Lévy. Alors avec une orthographe différente de l'écrivaine que nous connaissons, c'est une jeune écrivaine, c'est aux éditions Alia, donc ces petits fascicules très jolis, jaunes, 12 euros. Ça se lit très très bien, ça fait un peu format poche, mais avec une très très belle police de caractère, une couverture bien finie et un beau lissé. Avec Deborah Lévy, en deuxième partie d'émission, on abordera une écriture du côté de l'anthropologie. C'est comme si elle avait inventé une figure d'anthropologue des lointains et elle avait inventé un peuple que cet anthropologue serait chargé de justifier par sa présence. On la laissera donc parler à partir de 19h30. Première partie d'émission avec quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu plus, dont on a déjà parlé, même si c'est son premier entretien ici, c'est Nancy Murzilli, universitaire à Paris 8, plutôt donc dans les théories de la fiction, théories de la littérature, mais surtout théorie de l'agentivité de la fiction. Donc on est du côté de la philosophie pragmatiste pour son livre qui était paru au début de l'année aux éditions Premier Parallèle, qui s'appelle « Changer la vie ». Par nos fictions ordinaires. Il faut bien retenir ce titre parce qu'il a vraiment une forte signification pour l'émission du fictionnaire, puisque ce livre est peut-être un livre du fictionnaire. Ça pourrait être ça, d'une fictionnaire, en l'occurrence Nancy Murzilli, « Changer la vie par nos fictions ordinaires ». C'est avec elle que nous allons commencer, Karl, bien entendu, une musique de piano, il me semble.
Il te semble bien, mais hélas, peu de femmes dans la programmation musicale ce soir.
Mais c'est pour contrebalancer leur voix. Voilà. Leurs voix vont être puissantes et vont être entendues. Il faut bien que les doigtés du pianiste soient masculins.
Bravo. On va commencer par un pianiste turc, Toros Kan, qui s'est illustré à l'Orléans Concours International il y a quelques années sur un répertoire de Ligeti. Et là, on va l'écouter en train d'interpréter Crumb, mais pas l'illustrateur, un autre Américain, célèbre ou pas, George Crumb, qu'on n'avait pas encore trop diffusé, je crois, dans l'émission de littérature et du fictionnaire. C'est un compositeur de musique d'avant-garde, on va dire. Et puis, la pièce s'intitule « Morning Music ». Et c'est dans un plus grand volume extrait d'une œuvre qui s'appelle Macrocosmos, qui date des années 70, 72, 73. Quoi. Voilà, voilà.
Vous êtes entre bonne compagnie. C'est l'émission du fictionnaire Radio Campus Orléans jusqu'à 20h. Je suis en compagnie de Nancy Murzilli. Merci de me recevoir dans ton bureau de l'Université Paris 8. Nous parlons de ton livre « Changer la vie par nos fictions ordinaires », sous-titré « Du tarot aux rêves éveillés, comment nous mettons nos avenirs en jeu ». Il est sorti au début de l'année 2023 aux éditions Premier Parallèle. J'aimerais que nous parlions du premier chapitre qui s'appelle « Comment rencontrer le grand amour ». Tu y relates une expérience en forme d'événement personnel. Ta maman effectue pour toi un tirage de tarot avant que tu effectues un voyage en Italie. Ça s'est passé il y a de nombreuses années. Peux-tu nous raconter ?
Merci Dominique de cette invitation à parler de ce livre. Alors, cette expérience du tarot avec ma mère est une expérience assez forte qui jalonne notre histoire, parce que ma mère donc vit assez loin de moi, ou je vis assez loin d'elle. Et quand on se retrouve, c'est une sorte de rituel de tirage du tarot. Et à ce moment-là, se renoue une conversation, mais une conversation un petit peu particulière avec ce tiers signifiant qu'est le tarot, qui se situe entre nous et qui permet un dialogue d'une sorte un peu différente. Cette histoire de tarot, en fait, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, parce que depuis de très longues années, je m'interroge sur la fiction et son agentivité. J'ai toujours travaillé sur des supports artistiques, en fait, essentiellement des ouvrages de littérature. Lors d'une de ces séances, donc pas celle dont tu as parlé au départ, mais une séance qui est arrivée plus tard, j'ai réalisé après coup qu'il se passait quelque chose qui était de l'ordre de la fiction, mais une fiction co-construite durant la séance de tarot. Il se passait quelque chose, et il se passait quelque chose dans une sorte de bulle temporelle, le moment de la séance, un peu comme finalement dans tous les jeux qu'on pratique, qui se situent un peu hors du temps, parce qu'on joue avec d'autres règles aussi. C'était le moment, pendant la séance de tarot, de poser une question au tarot, de la formuler, de faire le point ensemble et de projeter un récit. Alors, qui peut être projeté sur le passé, sur le présent ou sur l'avenir. Et je me suis dit, en fait, là, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de fiction ordinaire, finalement. C'est-à-dire des fictions qu'on pratique au quotidien. Mais dans le tarot en particulier, ça devenait spectaculaire. Parce que justement, il y a une dimension un peu dramatisée, il y a l'idée de la divination aussi, voilà, on prédit l'avenir dans le tarot. Je suis repartie de cette séance de tarot que je pourrais considérer comme initiale, qui a été la première en fait, hein, et qui m'a annoncé une rencontre amoureuse. Et j'en ai fait quelque chose que j'ai trouvé aussi amusant à raconter, en fait, parce que c'est une histoire de vie assez banale, en fait, quelque chose qui arrive un peu à tous. Et qui peut être présenté à travers ce récit comme quelque chose d'un peu romanesque, hein, aussi. Et je me suis interrogée sur le rapport de cette fiction construite au moment du récit qui se crée lorsqu'on lit les cartes et qu'on les lit les unes aux autres à travers le hasard du tirage qui va décider du sort de la suite, en fait. Et voilà, je pense que...
Et alors, c'est ta manière de nous parler de cette séance et de nous parler de cette efficace. C'est-à-dire que tu vas avoir, puisque tu es théoricienne, tu vas réussir à avoir le bon vocabulaire, la bonne syntaxe, pour nous restituer l'efficace de ce tirage de tarot. Voici ce que tu écris. Pour comprendre cela, il faut saisir que la lecture du tarot détermine moins un résultat qu'elle ne rend possible une action. La fiction projette des situations qui, lorsqu'elles s'articulent à nos vies, prennent une valeur performative car elles donnent existence sur le champ à un possible. On sent bien qu'avec le vocabulaire que tu vas employer, le terme d'action, le terme de performatif, le terme de possible, le terme de fiction, ça va te permettre de théoriser avec ce type de pratique qui, jusque-là, n'est pas forcément pris au sérieux d'une théoricienne de la fiction que tu es.
Ce qui m'a amené donc à relier la pratique du tarot divinatoire à la fiction, comme tu le dis, c'est ma pratique de théoricienne de la fiction, en effet. Moi, je m'interrogeais, comme je l'ai dit, à l'agentivité des fictions, et essentiellement des fictions littéraires. Et la grande question que posait la théorie de la fiction classique, c'est le rapport de la fiction au réel. Et des théoriciens comme Frege, Searle, donc des théoriciens des théories de la référence, en fait, qui travaillent avant tout sur la question de la vérité, en philosophie analytique, se sont interrogés sur la fiction du point de vue de la vérité. Donc, en se disant, la fiction, en fait, n'a pas de valeur de vérité, donc elle n'a pas de rapport avec le réel. Et pourtant, dans la pratique, donc si on observe la fiction d'un point de vue pragmatique, on se rend bien compte qu'elle a des effets, sur nos vies. Le tarot, c'est le dispositif, en fait, qui m'a permis de saisir le jeu qu'on fait avec... avec la fiction, c'est-à-dire la façon dont elle s'articule à nos vies. Quand on lit le tarot, on construit un récit qui est fictionnel, puisque quand on projette quelque chose sur l'avenir, de toute façon, ça n'a pas encore été. Donc c'est de la construction et c'est de la co-construction. Ça devient effectif à condition qu'on relie les éléments du récit à des éléments de la vie. Donc, qu'on entremêle la fiction et le réel que la fiction est en train de construire et qu'on continue d'engager en continuant à le vivre. Donc, il y a une espèce de constant va-et-vient. En fait, ce que je dis à un moment donné, c'est que on ne peut pas oublier une séance de tarot. La question qu'on a posée et à laquelle le tarot a répondu, on y pense parce que ça marque. Il y a cette dimension dramatique de on te prédit l'avenir. Donc c'est quelque chose qu'on intègre à la suite de la vie. Donc on sort de la séance de tarot, on retourne à la vie avec ce récit. Et c'est en cela que ce récit fictionnel et performatif. C'est-à-dire qu'il prend effet au moment même où il est formulé. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai faite du tarot. Voilà.
Alors j'aimerais qu'on continue pour bien faire comprendre l'opération que tu effectues, parce qu'elle décale l'usage du terme de fiction, ou en tout cas la manière dont on attribuait à la fiction certaines qualités. Je te cite, « Je désigne par fiction les produits de notre imagination ». Rompant avec une longue tradition en théorie de la fiction, et tu as commencé déjà à nous l'expliquer, je m'abstiens de définir la fiction à partir des rapports qu'elle entretiendrait avec les faits. Cette opération n'est pas anodine. Dit comme ça, on pourrait dire « bon, d'accord ». Oui, mais bon, d'accord, mais ça change tout, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse cet usage traditionnel de la fiction en théorie, eh bien, soudain, la fiction se met à émettre d'autres effets. Et ça, on sent bien ce qui s'est passé avec le tirage de tarot.
Alors, oui, j'hésitais d'opposer la fiction aux faits et éviter ce genre de binarisme. En fait, ça, c'est un petit peu la leçon de la philosophie pragmatique dont je me sens proche. Et donc, dans cette idée que la fiction s'entremêle au réel, dans ce va-et-vient dont je parlais tout à l'heure, fait qu'on ne peut pas séparer la fiction des faits. D'abord parce qu'à l'intérieur même de la fiction, il y a cet entremêlement. Et là, pour reprendre à nouveau l'exemple du tarot, ça se voit très concrètement dans une séance. C'est pour ça que pour moi, ça devient un modèle, en fait, pour une théorie de la fiction. C'est que je vais sortir une carte et on va me donner l'interprétation de cette carte. Et moi, je vais dire, ah mais oui, en effet, ça c'est vrai, surtout si on instaure un dialogue avec le consultant, et c'est là que ça devient intéressant. En effet, ça c'est peut-être parce que il y a quelque temps, j'ai reçu de l'argent, ou j'ai ce projet de construire une maison, et là, la fiction se mêle à... Et à des éléments de la vie et se construit avec. Donc nos fictions, les fictions artistiques, se construisent de cette manière, donc avec des éléments qu'on peut dire référentiels. Mais si on part du principe que la fiction est ce qui permet de construire le réel et de le projeter, on ne peut pas l'opposer aux faits, puisque elle-même fait partie de la construction des faits.
C'est pour ça que, pour continuer sur cette pratique du tarot, ça te permet d'écrire « Rien ne me permet de dire que le tirage s'est fait, s'est vérifié ». Parce que c'est autre chose qui se passe. Tu en arrives à écrire cela. « Si la divination est une pratique fictionnelle, la fiction est peut-être d'abord et avant tout une pratique divinatoire. » Ça te permet ce retournement comme ça. Et donc, ça te permet d'envisager la fiction en tant que prédiction. Et tu en arrives avec ta pratique du tarot à dire, cet énoncé, « Rien ne permet de dire que le tirage s'est vérifié. » Si bien que ça te permet d'avoir cette phrase « Si la divination est une pratique fictionnelle, la fiction est peut-être d'abord et avant tout une pratique divinatoire, si bien que tu opères un basculement en direction de une fiction prédictive. »
Oui, alors c'est là qu'en fait les choses se renversent en effet, et que j'ai cette idée de considérer les fictions comme des formes de divination, à condition qu'elles soient articulées à des événements, à des éléments de la vie. Donc c'est la dimension prédictive de la fiction n'existe pas a priori dans le texte fictionnel. Cette dimension prédictive ou divinatoire n'existe qu'à partir du moment où je performe la fiction en la lisant et parfois, une fois qu'elle a fait son chemin, ou qu'on la retrouve à un moment donné de l'existence. Tout d'un coup, il y a une connexion qui se fait entre une histoire ou un possible qui m'a habité au moment où j'ai lu cette fiction et qui a fait son chemin et qui est arrivé à un point de jonction avec donc il faut qu'il y ait un événement extérieur qui crée ce point de jonction et qui en quelque sorte réalise la prédiction.
Utilisons un autre exemple que le tarot, celui de l'ami imaginaire. Cela arrive souvent aux enfants et il est courant que l'ami imaginaire soit abandonné lorsque l'enfant grandit et il est même souhaitable puisque généralement les psychologues disent bon maintenant l'enfant a passé l'âge d'avoir un ami imaginaire, il faut s'en débarrasser, c'est souvent le passage à l'adolescence et à l'état adulte. Donc tu prends cet exemple de cet ami imaginaire, tu écris qu'il est exemplaire des relations et des interactions que nous entretenons en imagination. Seulement, tu ne vas pas t'intéresser tant au monde de l'enfance de voir que nous pouvons encore continuer cette expérience et tu vas effectuer une comparaison avec d'autres populations humaines, par exemple les sociétés hachoires étudiées par Philippe Descola. Tu écris qu'elles communiquent avec les entités de la nature via les rêves et par lesquels des activités comme la chasse ou le jardinage sont en partie oniriques, et que ces populations ont une notion du vrai et du faux, du mensonge, même s'ils ne partagent pas une théorie de la connaissance identique à la nôtre et ne tracent pas le même partage entre fiction et réalité. Et donc ça va te permettre de comparer, on va dire, des régimes d'usage de la fiction, de l'imagination, de populations humaines différentes de celles de nous autres, les modernes.
Oui, l'ami imaginaire, c'est un... ça a été aussi un élément important dans ma réflexion. Et je l'ai associé à l'espace de jeu potentiel qu'on trouve dans le livre de Winnicott, « Jeu et réalité ». Ce que j'ai trouvé intéressant, bon, au-delà de la vulgate, de ce qu'on sait sur Winnicott et de l'objet transitionnel du doudou, il dit quelque chose d'intéressant, à mon avis, c'est que dans cet espace de jeu se construit la culture. Et c'est un espace de jeu intermédiaire où on peut développer des formes imaginaires. Donc voilà, ça peut être un dialogue avec un ami imaginaire. Alors je raconte que l'exemple que je prends, c'est celui de mon fils qui avait une amie qui était la baleine avec qui il dialoguait. Et c'est ce qui permet, dans ce cas, de construire, déjà de préconstruire une relation amicale. Et dans ces espaces de jeu, le caractère intermédiaire entre l'imagination et le réel signifie qu'il n'y a pas de distinction. L'enfant ne fait pas de distinction et ça ne lui pose pas de problème. Et ça ne pose pas de problème ensuite dans le réel. Et alors, on tend à dire, ah, les enfants, il faut à un moment donné, s'ils restent trop dans cet imaginaire, s'ils continuent à avoir un ami imaginaire quand ils sont plus grands, c'est embêtant. En réalité, je crois que tout simplement, ça se déplace. Si on observe bien, on continue à dialoguer avec des entités imaginaires en permanence. Et alors là, je vais prendre l'exemple des hachoirs, mais parce que c'est assez parlant du fait que ce sont des sociétés qui ont des fonctionnements qui sont très différents des nôtres. Mais finalement, quand on observe nos comportements et relativement à nos propres fictions, on va continuer un dialogue avec un personnage de fiction, on va continuer à la conversation que j'ai là avec toi. Et bien quand je marcherai ce soir de la fac au métro et jusque chez moi, je continuerai la conversation avec toi et j'en ferai peut-être un dialogue imaginaire pour le poursuivre. Et à mon avis, c'est à peu près du même ordre.
Abordons une autre partie qui s'intitule « Comment se défendre contre ses ennemis ?» Et là, tu vas utiliser les livres et les travaux de recherche de Jeanne Favret-Saada. Ça va nous permettre non plus de voir le lointain des hachoirs, mais le proche de nos pratiques au sein même de la modernité, donc des pratiques de sorcellerie. Et ça, c'est les grands livres et les grands travaux théoriques de Jeanne Favret-Saada. Qu'est-ce que ça te permet de réfléchir avec ces livres? Peut-être que tu vas l'entendre aussi comme une sorte de fiction relationnelle et d'essayer de voir ce que ça peut faire comme effet en incluant dans ces pratiques de sorcellerie le terme de fiction. C'est comme si c'était un forçage théorique de dire c'est des pratiques de fiction. Au premier abord, on pourrait te le reprocher et dire mais non, ça n'a rien à voir avec de la fiction, bien entendu. Et donc tu vas faire un forçage théorique et là, ça peut produire justement des effets nouveaux.
Oui, en effet, Jeanne Favret-Saada ne parle pas de fiction quand elle décrit ses pratiques. En revanche, quand elle considère la thérapie par le tarot, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire le désorcellement, par le tarot et notamment la pratique de Madame Flora qu'on trouve dans son ouvrage « Désorceler », elle dit qu'on se situe dans un espace mi-fictionnel, mi-réel. Et là, je crois qu'on se retrouve à peu près dans cet espace de jeu dont parle Winnicott. Et d'ailleurs, au moment où elle en parle dans « Désorceler », elle le rapproche de la pratique psychanalytique. Et de la cure psychanalytique, où elle dit que entre le patient et son psychanalyste, il y a cet espace de jeu qui se crée. Donc moi, ce qui m'intéresse là dans les pratiques de sorcellerie, c'est cet espace de jeu où se construisent des pratiques fictionnelles. Qu'on peut considérer comme une introduction de quelque chose de l'ordre de l'invisible, en quelque sorte. Je vais lancer du sel par-dessus mon épaule pour chasser les mauvais esprits. Ces entités-là, ces mauvais esprits, de quelle nature sont-ils? Je m'en soucie pas et je me demande pas s'ils sont vrais, s'ils sont faux, s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Mais en tout cas, ce geste, cette pratique, on peut, et ça c'est ma proposition, les prendre dans l'idée d'une pratique fictionnelle.
Et c'est ce qui va te permettre de les considérer à nouveau frais. Parce que les anthropologues pourront te reprocher cela. Si on prend par exemple Charles Stepanov qui étudie les chamans, si on considère que la pratique chamanique c'est un usage fictionnel et non pas imaginaire. Charles Stepanov, quand il les étudie, il parle de régime d'imagination, mais il ne parle surtout pas de fiction. Si je vais le voir en lui disant « et si ça pouvait être de la fiction ?», il m'en fait aussitôt reproche amical en me disant « non, vous vous trompez, parce que si vous dites que c'est fiction, c'est comme si c'était une assertion ontologique. et les chamans ne considèrent absolument pas que c'est de la fiction. Néanmoins, je considère, et c'est aussi tout l'enjeu de ton travail, donc nous considérons tous les deux ensemble, qu'il faut tenter l'opération théorique. Donc c'est, on pourrait appeler ça cette opération de forçage théorique, au moins pour vérifier, et pour surtout vérifier les effets, puisque nous cherchons les effets que peut produire la fiction, et c'est aussi ton titre, nous mettons nos avenirs en jeu. Comment tout ça, ça peut faire prédiction ou prédifiction? Et pour cela, il faut un forçage théorique. Si nous ne produisons pas de forçage théorique, dans ces cas-là, on théorise, on va dire, de peu, puisqu'on va être très rapidement d'accord. Or, tu utilises là les travaux de Jeanne Favre-Saada, et ça va te permettre de produire cela. J'ai trouvé vraiment une phrase très, très éclairante. Je te cite à nouveau. Dans ce livre, je mets sur le même plan plusieurs pratiques que l'on fait généralement relever des croyances plutôt que des fictions. On y est là, voilà. Hein? Généralement relever des croyances plutôt que des fictions. En me situant du côté de leurs effets, j'extrais ces pratiques du champ des croyances pour les observer comme des fictions ancrées dans le réel. Voilà l'opération théorique que tu opères.
Mais coupez-moi, j'ai posé des questions aussi longues. Ah, mais vous aurez la réponse en tout cas de Nancy Murzilli dès demain sur le site de l'émission du Fictionnaire, bien entendu. Toutes les interviews sont un peu plus longues et sont coupées. Pour le direct de l'émission, à suivre Déborah Lévy pour son livre « La version » aux éditions Alia. Karl, je sens qu'il y a un vinyle qui pointe.
Oui, on va redescendre un petit peu dans le temps, en 1968 avec Ivo Malek, qu'on a déjà pas mal diffusé par ici. Et puis ben, là, ça va être une pièce qui s'appelle Lumina, pour 12 cordes et bandes magnétiques. Alors attention, c'est un peu physique là. Hein.
Tu veux dire que ça va être groovy?
C'est ça, je cherchais le mot.
Groovy, c'est l'émission des Fictionnaires Radio Campus Orléans, yeah.
Je suis en compagnie de Déborah Lévy, nous parlons de votre texte « La version » qui est paru en septembre 2023 aux éditions Alia. Nous nous trouvons aux éditions Alia. Lorsque j'ai lu « La version », je me suis tout de suite imaginé que vous avez eu de nombreuses lectures en anthropologie et j'ai imaginé aussi que vous étiez parti peut-être de cette collection « Terre humaine » aux éditions Plomb. On pense à « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss, on pense au « Dernier roi de Tulé » de Jean Mallory, et je pensais aussi au « Lance de crépuscule » de Philippe Descola. Et que voilà, j'imagine, je fais l'hypothèse, que vous partez de ce corpus où des anthropologues ont écrit pour le plus grand public, c'était le but de la collection Terre humaine, et faisaient plutôt une mise en récit de leur terrain en anthropologie. Est-ce que c'est votre base pour écrire la version?
Merci. Et vous n'êtes pas le premier à me poser cette question par rapport à l'anthropologie. Le texte a été beaucoup considéré comme une sorte de, d'exercice de type anthropologique. Ce n'est pas mon point de départ. J'ai pas lu les livres de cette collection. J'ai pas lu tous ces rapports ethnographiques. J'ai lu très peu de textes de cette nature-là. Par contre, ce que je peux dire peut-être, c'est que c'est pas mon point de départ, mais c'est effectivement mon point d'arrivée, d'une certaine manière, à ma propre surprise. Et peut-être que y a un élan qui est le même que celui d'un anthropologue qui va sur un terrain, c'est le désir, l'appel à rencontrer une altérité, et particulièrement peut-être une altérité cognitive. Ma rencontre avec ce peuple, c'est un élan pour découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Donc, dans ce cas-là, peut-être que la démarche, elle est proche d'un ethnographe ou d'un anthropologue.
Parce que nous avons affaire à un narrateur, une narratrice, enfin j'avais imaginé une narratrice, une sorte de double de vous, qu'on pourrait qualifier d'anthropologue, et qui va étudier un peuple des lointains. Est-ce que c'est bien cela ?
À la fois oui, à la fois non. Parce que ce qui est toujours mis en question dans le livre, c'est la question de l'appartenance de cet être, narrateur ou narratrice, à ce peuple. C'est pas clair. Mais en tout cas, c'est pas tout à fait le rapport d'un anthropologue ou d'une anthropologue. C'est pas le rapport d'un autre ou d'une autre qui va vivre peut-être de manière intégrée, pas forcément avec cette distance objectivante d'une certaine anthropologie, mais là, c'est plus complexe que ça, parce que on comprend que la narratrice, le narrateur a quitté son monde définitivement pour vivre dans cette communauté ou dans ce peuple. Donc pour moi, le rapport, il n'est pas tout à fait le même.
Donc on ne pourrait pas qualifier le narrateur, la narratrice d'anthropologue.
Difficilement pour moi, le narrateur ou la narratrice pourrait prendre cette position. Par contre, ça n'empêche pas que le récit peut être caractère anthropologique, mais alors on devrait peut-être dire ce que fait pour nous un récit anthropologique, ce que fait pour ceux qui le lisent, pour ceux qui restent et qui lisent ce récit de l'altérité, qu'est-ce que ça produit. À cette condition-là, on pourrait peut-être dire que c'est un récit anthropologique.
Alors j'aimerais qu'on parle déjà du titre qui s'appelle L'aversion. Il pourrait y avoir plusieurs interprétations possibles de ce titre.
Oui, la première, c'est comme ça qu'on appelle l'exercice qui consiste à traduire d'une langue à une autre un texte. Donc c'est ramener dans sa propre langue un texte qui a été écrit dans une autre langue, ce qui est effectivement très juste pour caractériser l'effort constant de cette voix qui essaye de trouver dans notre langue des mots pour décrire quelque chose qui est a priori très étranger à notre expérience du monde. Donc ça, c'est le sens le plus important. L'autre sens aussi, c'est que c'est un texte qui est sa nature, il y a quelque chose du témoignage, du compte-rendu, du rapport. Et du coup, c'est inévitablement une version possible de ce qu'on peut dire, de l'histoire qu'on peut raconter de ce monde. Donc c'est une des versions possibles. Peut-être que ce même narrateur, cette même narratrice, à une autre époque de sa vie, aurait raconté une autre histoire, en vivant la même chose. Une autre personne aurait inévitablement raconté autre chose. Donc c'est une version possible. Et puis il y a aussi quand on l'entend, la version, on entend aussi la possibilité que le titre soit la version L'aversion. Et ça, c'était important aussi pour moi qu'on l'entende, parce que malgré la féerie qui peut se dégager du texte et aussi le caractère utopique à certains moments, il y a aussi quelque chose de plus sombre qui traverse le texte à plusieurs niveaux. Et j'aimais l'idée qu'on l'entende dans le titre.
Alors, si vous n'êtes pas parti des récits d'anthropologie, est-ce que vous pouvez nous parler des modèles d'écriture de votre livre, d'où ça provient?
Merci. Je pense que ça provient pas d'un champ en particulier, ça provient d'une longue pratique de lecture qui va piocher dans plein de champs différents et qui fait peut-être qui digère tout ça et qui le transforme d'une manière un peu hybride. Je pense que les plus grandes influences, c'est tous les auteurs sud-américains, Borges, Pio Casares, des auteurs que j'ai beaucoup lus quand j'étais plus jeune. Il y a la science-fiction aussi, et par exemple la science-fiction à caractère qu'on appelle soft science-fiction, donc plutôt des autrices américaines des années 70, comme Ursula Le Guin par exemple, qui pour le coup, son père était anthropologue d'ailleurs, qui pour le coup ont cette recherche anthropologique dans leur... Donc peut-être qu'en fait l'anthropologie, elle est arrivée à moi de cette façon-là, par des auteurs de science-fiction qui ont cherché, trouvé des ressorts ou des chantiers communs d'exploration avec les anthropologues.
Je comprends mieux par votre réponse, effectivement, d'où est votre point de départ. Et Ursula Le Guin, là, maintenant, on pourrait effectivement lire votre livre avec cet impact en tête. Et j'étais parti des anthropologues et pas d'Ursula Le Guin, effectivement. Il y a ce lien fort d'Ursula Le Guin avec l'anthropologie par sa famille, par son père, effectivement. J'aimerais qu'on commence par la première phrase, hein, parce qu'elle nous dit beaucoup, cette première phrase. « Je ne crois pas qu'on puisse parler d'un monde dans la langue d'un autre monde. » Alors moi, j'étais resté sur un corpus de sciences humaines, et vous savez que les grands noms en anthropologie aiment bien une première phrase qui frappe. On peut penser à « Je hais les voyages et les explorateurs », première phrase de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, où il y a cette autre première phrase vraiment devenue à l'état de postérité, celle de Philippe Descola dans Parle de la nature et culture. C'est dans l'aval du Capaoui, une rivière limoneuse de la haute Amazonie, que j'ai commencé à m'interroger sur l'évidence de la nature. Voilà, il y a des célèbres premières phrases en anthropologie, moins peut-être en science-fiction. Et j'ai trouvé que c'est une manière assez puissante de commencer. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'un monde dans la langue d'un autre monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Déborah Lévy?
Oui, alors peut-être que là-dessus, il y aurait beaucoup de chemins différents à emprunter pour parler. Cette phrase est venue très vite, parce que... très rapidement, le travail que j'avais à faire pour écrire ce livre qui se présentait, c'était de devoir mettre des mots sur des images ou des sensations ou des expériences ou des intuitions qui étaient très difficilement discibles. Dès que le monde a commencé à exister et que ce peuple a commencé à exister et qu'ils ont commencé à vivre, tout ce que j'ai pu observer d'eux, j'avais beaucoup de difficultés à mettre des mots dessus. J'avais beaucoup de difficultés à... J'étais toujours insatisfaite par les mots. Ce qui fait qu'il y avait... Il en reste des traces dans le texte, il y a beaucoup de tâtonnements. Je dis que je vais utiliser tel mot, mais qu'en même temps, c'est pas tout à fait le bon mot, que c'est contradictoire, qu'un certain sens du mot est contradictoire avec ce que je dis. Il n'y a jamais le bon mot, en fait. Et j'en ai enlevé beaucoup de cet tâtonnement, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup plus. C'est devenu très profus, ces hésitations. Mais il en reste quand même beaucoup de traces. Et cette phrase, c'est la nécessité de dire d'emblée que le travail que je vais devoir faire, c'est celui-là.
Alors j'aimerais qu'on en vienne à cette population qui est étudiée, ce peuple
qui étudiait, je me suis posé la question si c'était un peuple qui était encore humain. Alors peut-être qu'on comprend mieux si vous passez par Ursula Le Guin, si vous passez par cette science-fiction. Parce que j'avais l'impression que ce peuple disposait de particularités qui avaient été non rencontrées par les anthropologues dans les populations humaines autochtones.
Non rencontrées ?
Oui. C'est-à-dire que les anthropologues actuels, quand ils vont dans les lointains étudier des populations autochtones, quand ils les étudient, on comprend bien que ce sont des humains et qui ont tout de même des caractéristiques et des cultures humaines. Et j'ai l'impression que le peuple qui est écrit dans la version a des caractéristiques qui font penser qu'il n'est pas forcément que humain, peut-être plus qu'humain ou pas humain.
Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ces caractéristiques pour être sûr que je...
Alors, oui, on peut caractériser. Par exemple, lorsque vous écrivez « oui », ça veut dire qu'on avait le corps dont on était capable de s'occuper. Ce qui implique que tout le monde n'avait pas le même genre de corps. Parce que ce qui importait le plus était que chacun puisse s'entretenir soi. Qu'ils n'aient pas tous le même corps, ça pourrait faire penser à des personnes. Et encore, le mot personne n'est peut-être pas la bonne. C'est là où on va commencer à hésiter, en fait, avec votre texte. De même que le narrateur-narratrice hésite aussi. Et là, on a affaire à des problèmes de langue et donc à des problèmes aussi de concept sous-jacent, afin de qualifier ces entités-là. Et encore, même le mot entité est douteux, parce qu'à un moment donné, il y a un doute aussi dans votre texte là-dessus. Voilà, ce qui implique que tout le monde n'avait pas le même genre de corps, ceci peut nous faire comprendre qu'il y a peut-être un doute à émettre sur leur qualité en tant qu'espèce humaine.
Oui, à mon sens, il y a plusieurs de leurs caractéristiques qui nous semblent tellement étrangères qu'il est plus facile d'imaginer qu'elles sont non humaines que d'imaginer une autre humanité. Bon, la diversité des corps, ça, je pense qu'on peut... si on contemple l'humanité, on peut voir que c'est possible. Mais par exemple, je pense à la question de l'identité, qui est un motif qui revient beaucoup. C'est un peuple où l'identité n'a pas la même valeur, ou n'est pas structurante dans la société, comme elle peut l'être chez nous. Et ça, c'est que les personnes ne soient pas des personnes, en fait. Que les corps n'aient pas d'identité, ou que leur identité ne soit pas importante. C'est quelque chose qui peut nous paraître tellement inhumain que je pense qu'il est plus facile d'imaginer que ce soit autre chose plutôt que des humains. Mais, alors du coup, je ne suis pas anthropologue, donc je ne sais pas. Mais l'humanité me paraît tellement riche et variée dans ses dessins possibles de formes de vie que je crois que c'est impossible d'imaginer une humanité qui ne serait pas possible quelque part. Donc peut-être qu'en fait, ils existent quelque part. J'ai eu depuis la sortie du livre des personnes qui m'ont... Par exemple, dit que certaines choses que je décris sont vraies de certains peuples autochtones qui ont été décrits par des anthropologues. Notamment, par exemple, toute la partie sur le don. Apparemment, Marcel Mauss a décrit ça de manière très précise. Moi, j'ai jamais lu Marcel Mauss. Mais donc, je pense qu'il y a des éléments qui sont pas représentatifs d'une seule population. Mais je crois qu'au fond, tout ce que j'ai décrit, c'est possible que ce soit vécu par l'humanité.
Alors entrons justement sur les capacités de ce peuple. Une qui m'a paru, comment dire, qui m'a interrogé, j'avais justement envie de vous questionner à ce sujet-là, c'est leur usage de la temporalité, leur usage de la chronologie, leur usage du temps. Je vous cite, « La mort d'un personnage égalait la chute d'une pomme au pied d'un pin. Chaque événement était un événement. » Oui, je sais, c'est paradoxal. C'est parce que le mot « événement » ne permet pas de comprendre. Il discernait une infinité de phénomènes différents, mais égaux. Et plus loin, vous écrivez, il ne disposait d'aucun système conventionnel pour se situer collectivement dans le temps. Pouvez-vous nous parler de leur relation au temps ?
Oui, leur relation au temps est beaucoup plus, peut-être plus pragmatique ou plus pratique que la nôtre. Le temps n'a pas de valeur en soi. Sa valeur peut lui être donnée par les usages. Donc au moment où j'explique qu'ils n'ont pas de système commun, ils ont plein de façons de se mettre d'accord sur quel temps, ou de se synchroniser par exemple. Mais le temps n'a pas de valeur qui soit vrai ou fixe, hors de l'usage qu'on peut en faire. Ils n'ont pas le temps chronos, quoi. Et ils ont un rapport au temps aussi qui est déterminé par leur rapport au... Je le dis pas comme ça dans le texte, mais on pourrait dire leur rapport au projet. La plupart de leurs activités n'ont pas de rapport au projet. Elles ont pas de finalité. Elles n'ont pas de plan, de programme. Et donc, le rapport au temps est lié aussi à cette absence de finalité.
J'aimerais aussi qu'on parle de leur rapport aux objets. Et ça m'a fait écho à l'usage, enfin à tous ces textes des anthropologues sur les fétiches, notamment. C'est-à-dire un objet qui est fabriqué par un humain et qu'après, l'humain va utiliser en oubliant que c'est lui-même qui l'avait fabriqué. Et alors, vous continuez cette affaire de fabrication d'objets ainsi. On voit bien qu'ils aimaient les agencements de matière. Je dis agencement de matière parce que, compte tenu de la nature de ces choses, j'ai du mal à dire objet. Si je parle d'objet, j'annule l'essence fondamentalement instable et complexe de ces agencements de matière.
Oui, parce qu'en fait, ils ont un rapport passionné à la matière. Y a beaucoup d'abstraction dans le texte, mais il y a aussi beaucoup de descriptions de matière. C'est un rapport presque, enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est senti dans la lecture, mais érotique à la matière. Et en même temps, rien n'a vraiment le statut d'objet. Il n'y a pas de table, de chaise, de verre, la matière ne se condense jamais de manière assez stable pour former quelque chose qui pourrait être reconnaissable ou répété. D'ailleurs, je ne le dis pas dans le texte, mais en fait, ça me paraît évident qu'il n'y a pas deux agencements de matière identiques. Donc, il ne pourrait pas y avoir deux tables ou deux chaises. C'est sans doute lié à une thématique plus large du texte qui est la question de la transformation. Comme tout est toujours en transformation dans ce monde, leur corps, leurs pensées, les paysages, c'est pareil pour la matière. Donc c'est comme si la matière n'arrivait jamais à se densifier, à se stabiliser suffisamment pour faire ce que nous on appelle des objets et qui sont réplicables, conservables.
Et il en est de même pour leur corps, puisque la manière dont ils le transforment, ces objets, ou en tout cas ces agencements de matière, cela impacte aussi leur corps, c'est-à-dire que ces agencements de matière et leur corps sont un peu des équivalences et qui peuvent être malléables, et vous employez même le terme de mu à propos de leur corps.
Oui, tout à fait, il n'y a pas de différence substantielle entre la matière qui constitue leur corps et la matière qui constitue les objets. Tout est des corps, les objets sont des corps, leurs corps sont de la matière. Ce qui d'ailleurs peut-être ça résonne avec une question que vous avez posée plus tôt, faire parfois penser qu'ils sont inorganiques, et que donc ils ne sont pas tout à fait humains, parce que s'ils ne sont pas organiques, ils ne sont pas tout à fait humains, pas tout à fait vivants. Mais à la fois c'est étrange parce que ce serait pas tant que eux ne seraient pas vivants, c'est plutôt que la matière elle-même est aussi vivante. C'est plutôt, ça va plutôt vers du tout vivant, on va dire. Et donc les objets, la matière est inlassablement en train de se transformer sous l'effet du temps qui passe, sous l'effet des conditions météorologiques, sous l'effet de la dégradation, sous l'effet, et leur corps aussi, à la fois l'extérieur de leur corps. Donc ils ont un immense intérêt à se transformer, à faire des dessins sur leur peau, à s'habiller de certaines manières. Il y a un grand plaisir de la transformation extérieure, mais aussi de la transformation intérieure. Leur monde intérieur sont tout le temps en train d'évoluer. Leur cosmogonie, leurs souvenirs. Bon, en ça, je pense qu'ils ne sont pas très différents de nous, pour le coup. Je pense que peut-être on ne le voit pas toujours, mais qu'on est tout le temps en train de se transformer. On n'est jamais les mêmes d'instant en instant. Et c'est peut-être une assez grande conscience de ça qui m'a amenée à écrire ce rapport à la transformation. Une conscience assez grande qu'on n'est jamais identique à soi-même d'une seconde à l'autre.
Alors maintenant qu'on a posé un peu des jalons sur ce peuple, quel est le statut du narrateur, narratrice, qui n'est pas une anthropologue, qui va essayer de se mélanger à eux, mais qui est une forme d'extériorité, qui arrive chez ce peuple? Qu'est-ce qui se passe pour le narrateur, la narratrice?
Oui, cette voix qui raconte, elle est entre deux positions, dedans, dehors. C'est pas très clair. Ça se clarifie à la fin. En fait, le statut de cet être, c'est le statut, au fond, je pense, de tout être humain qui cherche à vivre dans un territoire, dans un peuple, dans une communauté qui lui est appropriée ou qui lui convient. Parce que ce qui est dévoilé à la fin, c'est que cet être a décidé de vivre là pendant longtemps, et pour ça, elle a abandonné son territoire initial, sa peuplade initiale, parce qu'elle ne pouvait pas vivre de là où elle venait. Il y avait un problème d'origine. Comme si, en fait, elle n'était pas née dans le bon peuple. Et en même temps, elle ne peut jamais devenir un membre exclusif de l'autre peuple parce qu'elle vient de son peuple original dans lequel elle était. Donc il y a l'impossibilité, en fait, de l'appartenance. Ça, c'est ça l'histoire de cette personne qui parle, c'est l'impossibilité de l'appartenance. Elle ne veut pas, elle peut pas vivre de là d'où elle vient, mais elle ne peut pas non plus être totalement dans un autre monde.
Si bien que mon hypothèse de départ de « c'est une anthropologue » ne tient pas, puisque la plupart des anthropologues reviennent après pour expliquer dans les institutions savantes, à l'université, le fruit de leur découverte anthropologique, en fait.
Et donc, vous aurez la réponse de Déborah Lévy. Bien entendu, dès demain, sur le site de l'émission du Fictionnaire, l'interview durant un petit peu plus longtemps. Voilà, c'était ce soir Nancy Murzuli, Déborah Lévy. Et c'était quasiment une même facette de la manière dont on peut faire fiction, dont on peut faire théorie, avec l'anthropologie et avec la théorie de la fiction. Karl, un dernier morceau pour terminer.